entrer maintenant dans ce que représente au point de vue du regard de philosophie première la relation. La dernière fois, je vous ai montré l'ordre que prenait Aristote dans les prédicaments. De fait, Aristote n'a rien dit en philosophie première sur les différents prédicaments. On comprend pourquoi, du reste. Parce que, au point de vue scientifique, on cherche les principes. Important pour ça progressivement. point de vue de la subjectivité transcendantale de Kant. Si c'est vrai, plaçons-nous un instant dans la vérité de Kant. Si je suis conscient, après tout, je peux l'être, si je ne cherche plus la vérité, et que je cherche à dominer.
Faut qu'il domine.
fonction, l'homme va devenir maître de l'être. Il va vouloir dominer. C'est pour ça que c'est si impressionnant. C'est très impressionnant, ça. L'étude de la relation, c'est une étude de crête. Parce qu'on va voir, c'est très curieux, la relation. C'est très, très curieux. Mais c'est en même temps la séduction possible. Alors, je prends, au point de vue étude historique, je ne vais pas tout faire parce que ça va être trop long. Vous pourrez regarder dans le second tome sur l'être, ça, dans la philosophie grecque. Alors regardez tout de suite Platon. Dans la philosophie de Platon, le relatif joue un rôle très important, mais également très difficile à préciser. Le relatif est sans doute ce qui s'oppose à ce qui demeure, l'ousia. La philosophie de Platon est la philosophie de l'ousia, de la déesse. Ça rejoint le point de vue du mythe et le point de vue philosophique, l'ousia, c'est ça. C'est ça qui est très curieux. Ce serait une manière d'étudier Platon, du reste, hein. De voir que par l'ousia, vous allez entrer dans le logos et vous allez assumer le mythe, le mythos. C'est le lieu de rencontre. Je suis Platon. Parce que l'âme, la psyché est ousia. Ousia rejoint la déesse qui demeure. On est donc dans la mythologie. Hestia. La déesse qui demeure, hein, vous voyez. C'est très, très curieux. L'église domestique. Domestique, Lucia. C'est la déesse de la maison. Donc, cette déesse, c'est la déesse de la maison, a l'immense avantage, c'est qu'on l'a dans la maison. On n'a pas besoin de sortir, on l'a dans la maison, la déesse de la maison. Elle est immanente à la maison. Elle est présente dans la maison. Alors, la mythologie demeure dans Lucia. Je suis donc en présence du Logos. Logos, c'est la philosophie qui commence. La philosophie, c'est le logos qui conquiert le mythos. La grande vision de Heidegger, qui n'est pas bête, c'est astucieux de voir que dans la philosophie grecque, c'est le logos qui conquiert progressivement le mythe. Le logos conquiert le mythe. Eh bien, la première conquête du logos sur le mythe, c'est l'ousia. C'est la porte d'entrée. Oui. Puisque l'ousia est logos, et l'ousia est l'âme. Et je suis tout proche du mythe, la déesse qui demeure. Il n'étudie pas passion fait naître Lucia. Si je prends là toutes celles parmi les formes qui ne sont ce qu'elles sont qu'en leur relation mutuelle, c'est dans ces relations qu'elles ont leur Lucia, mais non dans une relation prose à ceux qui, parmi nous, soit au titre de copie, soit au titre qu'on voudra, correspond à ces formes dont la participation nous vaut les appellations respectives. Quant à ces objets qui, chez nous, sont homonymes des formes, eux aussi, c'est entre eux qu'ils sont leur relation, et non avec les formes. C'est d'eux-mêmes qu'ils relèvent, et non des formes qui, à leur tour, portent les mêmes noms qu'eux. Ce texte est très curieux, parce qu'on voit que Platon est en forme des formes en soi, et en même temps de la relation. Alors qu'est-ce qui est premier? Les deux se tiennent. Il est sûr que pour Platon, la forme en soi est première, puisque le bien en soi, l'un en soi, est au-dessus de la dialectique. Mais la forme va être source de dialectique, parce qu'elle sera source de la participation. Toutes les formes participées qui viennent immédiatement après. Donc on est en face d'un système philosophique à la fois qui découvre Lucia, la déesse qui demeure, et en même temps la déesse demeure dans la participation et donc dans la relation. C'est le problème de l'unité synthétique des formes que Platon considère. Il s'agit bien d'un problème de relation. De fait, Platon étudie successivement les relations des formes entre elles, les relations des choses sensibles entre elles, et les relations mutuelles des formes et des choses sensibles. On est bien devant un tissu de relations. Dans le Sophiste, donc il vient juste après le Parménide. Alors, le Parménide, vous savez, si vous connaissez un tout petit peu Platon, le Parménide, c'est le livre critique de Platon. Quand on étudie Platon, on voit que jusqu'au Parménide, Platon est euphorique. Il a un dynamisme extraordinaire. Il est sûr de la conquête. C'est le grand livre de la République. Le livre de la République représente la synthèse la plus joyeuse, euphorique de Platon. Il est conquérant. Il faut avoir lu une fois dans sa vie la République. Parce que c'est beau. C'est faux, mais c'est beau. C'est un feu d'artifice. C'est extraordinaire. C'est sa vision de la justice. Parce que le dialogue de la République, c'est le dialogue de la justice. C'est les deux titres. Il ne faut jamais oublier ça. Or, c'est très net. C'est qu'on a dialectique ascendante, dialectique descendante. Et on voit très bien cette synthèse des formes. Et qui dit synthèse, dit que, de fait, on n'est pas en face d'un absolu. Autrement, on ne ferait pas la synthèse. Je ne peux pas faire la synthèse de Dieu. Dieu est Dieu. Il est. Pour faire une synthèse, il faut être en face de partie. Donc, d'être relatif à un tout. Et la synthèse, c'est le tout. Bien, la République représente le grand tout. Merveilleux, étonnant, d'une imagination folle. Immédiatement après la République, le Parménide. Le Parménide, avec la présence du jeune Aristote. Alors, évidemment, on a essayé de comprendre qui était ce jeune Aristote. On a rejeté Aristote, évidemment, disciple de Platon. pas de ça. Moi, je me demande si c'est pas le disciple de Platon. Je me demande si ce jeune Aristote, c'est pas vraiment Aristote. Il était à ce moment-là, c'est à peu près le moment où on croit qu'Aristote est arrivé à l'école de Platon. Étant donné combien les Grecs arrivés à l'âge mûr, à l'âge politique, sont séduits par les jeunes de 20 ans. 18-20 ans. Aristote est arrivé à 18 ans. Intelligent, comme pas un. Le liseur, celui qui lit, celui qui travaille, c'est ça Aristote, c'est comme ça qu'on le nomme. Aristote, selon tout ce qu'on a de lui, n'a jamais accepté les idées, les formes en soi. Aristote maintient dans sa philosophie, toujours, une philosophie du devenir. Il maintient le primat de l'expérience. Alors, on voit très bien que la grande attaque fondamentale par rapport à Platon, c'est de dire, mais les idées, est-ce que ça existe? Est-ce que vos idées, ce n'est pas purement artificiel, une relation de raison? Ah, il ne dit pas ça. Donc, avec sa petite cible, il attaque directement sa petite cible. Il attaque directement Platon. Et Platon est obligé de se justifier. Et comment Platon va-t-il se justifier? En faisant appel à un ancêtre. C'est toujours comme ça. Quand on est attaqué, on s'appuie sur l'autorité. L'autorité reprend force quand on est attaqué. Alors, le grand avant Platon, c'est qui? Parménide. Et le Parménide montre comment Socrate se met à l'école de Parménide. Vous voyez, c'est une faille terrible pour le platonisme. Pour Platon, c'est la réminiscence. Vous retrouvez tout en vous. C'est la réminiscence. Le Ménon montre que l'esclave sait tout. Il sait toutes les mathématiques. Pas besoin de lui apprendre, il les a en lui. Mais on a besoin de le réveiller. Il faut réveiller quelqu'un qui dort. Or, on possède tout en nous, dans la réminiscence, mais on dort. Il faut nous réveiller. Alors, on réveille par le fait de la réminiscence. La réminiscence, c'est vous réveiller pour retrouver tout ce que vous possédez en vous. La grande faille du système platonicien, c'est que Socrate se met à l'école de Parménide. Vous n'avez pas besoin d'être à l'école de Parménide si vous avez tout en vous. C'est contraire à la réminiscence. Il se met à l'école de Parménide pour apprendre ce qu'est la dialectique. Et Platon montre, alors, dans le Parménide, que les formes sont nécessaires, les formes idéales sont nécessaires. Vous ne pouvez pas penser s'il n'y a pas les formes. C'est pour ça que le Parménide de Platon, bon, s'il faut lire la République, il faut lire le Parménide. C'est les deux dialogues qui commandent tout Platon. Vous voyez, la République commande la grande montée. C'est le sommet. Et le Parménide, c'est la petite flèche critique du jeune Aristote qui dit, mais tout ça, sur quoi ça repose? La grande statue au pied d'argile. Tout ça, c'est la République, cette synthèse arbitrée, les pieds d'argile, ça repose sur les idées. Mais les idées, c'est quelque chose de faux, ça n'existe pas. C'est très astucieux. D'où le Parménide, qui est le premier livre critique de Platon, pour montrer que les idées sont nécessaires posa la question de savoir s'il faut avoir une idée des cheveux. Quand on vous coupe les cheveux, est-ce que vous avez une idée de tous les cheveux? Pensez ça quand vous coupez les cheveux. C'est intéressant. Et c'est dans par minute qu'on voit ça. S'il y a une idée de tout, est-ce qu'il y a une idée de la boue? On pousse le bout jusqu'au bout. Alors on voit la nécessité de poser les idées. Il y a le point de départ d'une induction. Platon est obligé de se servir. C'est contraire à la réminiscence. Oui. Donc, c'est... Parce que les idées, pour Platon, on les a. C'est des idées innées. Donc, il faut se rappeler les idées. C'est des idées innées. On est né avec toutes ces idées. On est né contemplatif. On est né en étant acolyte des dieux. Et on contemplait les dieux dans votre vie antérieure. Rappelez-vous un tout petit peu votre vie antérieure. Faites une petite... Réfléchissez un peu. Vous étiez contemplatif avant d'être dans votre corps. Et vous avez péché. Alors vous avez dû unir votre corps. Et la plupart du temps, vous vivez en dépendance de votre corps. Ça ne va pas du tout. Donc les idées sont le fruit de la réminiscence. Et on va montrer que les idées, c'est rien du tout. Alors, il va essayer de trouver une induction pour conduire aux idées. Et il va se mettre à l'école de Parménide pour apprendre la dialectique. Vous voyez, les deux brèches pour la réminiscence. C'est les deux grandes brèches, ça. Et avec Parménide, on voit l'importance de la dialectique. Et la dialectique, si vous êtes attentif en présent par la dialectique, vous voyez que, de fait, les formes en soi et la relation sont contemporains. On pourrait dire que les formes en soi, dans la perspective du Parménide, avec le point de vue de la dialectique, c'est vraiment dialectique et participation, les deux se tiennent. Vous voyez que forme en soi et relatif, c'est toujours contemporain. Parce que la dialectique ne peut pas exister sans la relation, sans l'opposition. Dans le sophiste, alors, Platon, à partir du Parménide, va tout reprendre. C'est le second Platon. Le Platon euphorique, le Platon à partir de la critique, le sophiste, dans le sophiste, exposant les genres suprêmes, l'étranger fait remarquer que les êtres se disent les uns selon eux-mêmes, katota, les autres vers les autres, pros Allah. Grande division de l'être. Cette division est très nette. L'opposition entre le kat-ota, selon eux-mêmes, et le pros Allah, vers les autres. Et on ne peut plus manifeste. L'autre, lui, ne se dit que vers un autre. Tout ce qui est autre a comme caractère nécessaire de naître ce qui est que relatif. Il est relatif à un autre. C'est le propre de l'autre. Donc vous voyez, vous définissez des êtres qui sont kat-ota, donc qui sont selon eux-mêmes. Et puis tous les êtres qui sont entièrement relatifs. Or, toutes les formes, en tant qu'autres, participent de la forme de l'autre. Ce qui fait comprendre comment la relation est présente à toutes les formes. Puisqu'il y a diverses formes, elles sont relatives les unes aux autres. Elles sont donc dans un lien de participation. Elles sont donc dans un lien dialectique. La relation, le relatif, fait donc partie essentielle de l'être. Comme Lucia. Dans le tête-à-tête, et du dissemblable, de l'identique et du différent. Des têtes soulignent, c'est de telle détermination, surtout, que l'âme pourrait examiner la substance en les comparant mutuellement. Pros allela. Dans le politique, à propos de la division de l'art, de la mesure, l'étranger affirme, divisons cet art en deux parties, d'une part selon la communauté, vers la relation mutuelle, de la grandeur et de la petitesse, d'autre part selon l'ousia, nécessaire du devenir. Donc, je crois qu'on peut dire que chez Platon, dans la philosophie platonicienne, il y a bien la découverte de l'ousia, mais ce n'est pas l'ousia principe, c'est l'ousia comme un moment dialectique, et la dialectique seule, qui implique le point de vue de la relation, va être le propre de la philosophie. Si vous supprimez la dialectique chez Platon, il n'y a plus possibilité de parler de philosophie. La philosophie est dialectique. Du reste, il le dit expressément. La philosophie est dialectique. Au-delà de dialectique, il y a la contemplation. Mais la contemplation n'est plus la philosophie. La philosophie implique donc tout le temps le point de vue de la relation. On pourrait presque dire que pour Platon, l'âme de la philosophie, c'est la relation. L'au-delà de la philosophie, c'est la contemplation. Alors nous regarderons demain le point de vue d'Aristote, voir comment Aristote est le premier au plan de vue de la philosophie.